Den halver Name.
An eisen invité ass den franzéschen Expert Serge Tisseron. Bonjour, monsieur Tisseron.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et docteur en psychologie. Vous avez une renommée au niveau international dans le domaine des dangers liés à l'écran chez les petits et plus grands enfants. Vous êtes un des pionniers en la matière et vos conseils sont devenus des références pour les professionnels de l'éducation. La preuve, vous avez été l'invité ou vous avez donné une conférence hier soir sur le sujet ici au Luxembourg. Le pilier de vos recherches, on peut dire, c'est les repères qui permettent d'introduire les écrans de matière structurée et peu à peu en fonction de l'âge de l'enfant et donc de son développement. La première étape est simple, pas d'écran du tout avant l'âge de 3 ans. Vous dites même dans un de vos livres aussi que l'écran est un danger ou la télé est un danger pour les bébés. Pourquoi ?
Oui, alors on a de la peine quand on est adulte à se représenter comment fonctionne un bébé. Mais vous savez, toutes les compétences qu'on a quand on est adulte, il a fallu qu'on les apprenne. Hein, on a la possibilité de savoir nager, encore faut-il apprendre à nager. Or, un bébé a la capacité d'apprendre à se concentrer, mais pour ça, il faut que d'abord, il soit accompagné dans ses acquisitions, hein, c'est-à-dire qu'il puisse interagir avec des adultes ou des frères et sœurs plus grands. Et puis, il faut aussi qu'il ait des moments où il apprenne à se concentrer. Et ça, c'est tous ces moments de jeu. Et si la télévision est allumée dans la pièce où un bébé joue, il a été montré qu'il est constamment dérangé dans ces périodes de jeu. Comme vous seriez constamment dérangé dans une piscine s'il y avait des adolescents turbulents qui vous jetaient sans arrêt une bouée dessus. Et du coup, l'enfant n'apprend pas à être attentif, à se concentrer. Et après, c'est des conséquences qui peuvent se retrouver tout au long de sa scolarité.
Et cet apprentissage, il dure jusqu'à l'âge de 3 ans. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Alors, l'apprentissage de l'attention, de la concentration, c'est tout au long de la vie. Vous savez, rien n'est fixé. Mais il y a une période extraordinaire entre la naissance et 3 ans, c'est que le cerveau grandit à une vitesse exponentielle. On continue à fabriquer des neurones toute la vie, c'est une bonne nouvelle. On est toujours capable de faire des apprentissages nouveaux avec des neurones nouveaux. Mais plus on vieillit, moins on en produit. Par contre, l'enfant, il en produit des milliards à tout instant. Et du coup, il est extraordinairement disponible à des tas d'apprentissages. Donc il faut qu'il soit en situation d'apprentissage et encore une fois, en communiquant avec des humains ou bien en ayant du temps pour expérimenter des activités, apprendre
physique,
à prendre un objet, ouais. Développer sa motricité, son mouvement dans l'espace, la capacité d'être attentif, du plaisir qu'il trouve à une activité. Et pour ça, il faut qu'il soit tranquille, sans télé.
Les prochaines étapes dans votre concept sont les âges de 6 ans, de 9 ans et de 12 ans,
oui.
Toujours parce que ce n'est qu'à partir d'un certain âge que les enfants peuvent comprendre certaines choses, si j'ai bien compris, et donc être prêts à mieux gérer les effets de l'écran, c'est ça ?
Oui, alors dans les balises 3, 6, 9, 12, il y a les tranches d'âge, comme indiqué, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, et au-delà, hein, parce qu'on ne s'arrête pas à 12 ans, mais il y a aussi des grands principes. Ces grands principes, c'est d'abord l'alternance. Vous savez, c'est un petit peu comme l'alimentation, le mieux, c'est de manger un peu de tout. Bon, dans la vie aussi, donc un peu d'écran, mais des écrans diversifiés. Quand l'enfant grandit, un peu de jeux vidéo avec des parents, pourquoi pas, c'est une manière de jouer ensemble, un peu de dessins animés, voilà, et puis aussi des activités de cuisine, des activités manuelles, des activités bricolage, alternance, l'accompagnement. C'est très important qu'un enfant se sente accompagné, ça lui donne confiance en lui, voilà, ça le socialise, hein, apprentissage du langage, et parler avec les adultes qui l'entourent. Et il y a un conseil que je vais donner, je donne toujours, je dis toujours, si on ne se rappelle que d'une seule chose des balises 3, 6, 9, 12, il faut se rappeler de la chose suivante. Prendre le repas du soir sans télévision, sans smartphone, sans tablette, pour en faire un moment d'échange avec les enfants. Et d'ailleurs, une récente étude, 2024, c'est tout récent, a montré que les enfants qui prennent leur repas du soir dans ces conditions-là avec leurs parents ont un bien meilleur développement cognitif. Et en plus, ils se sentent bien plus en confiance avec leurs parents, ils peuvent parler à leurs parents de choses qui les préoccupent. Si ça arrive.
Donc le principal enjeu, c'est de ne pas planter les enfants devant un écran juste pour être tranquille et de ne pas les accompagner. Voilà. Ça, faut pas
alors,
faire.
Après, si vous voulez, bon, il y a quand même beaucoup de parents célibataires, et des fois, même quand un enfant a moins de 3 ans, on a besoin de le mettre un peu devant un écran, des mères qui ont besoin d'un temps pour elles. Mais ce que je dis toujours, c'est que l'écran n'est pas toxique en lui-même, mais il ne permet pas à l'enfant de développer ses compétences. Donc, si vous mettez votre enfant 20 minutes devant un écran, il faut absolument que vous preniez 20 minutes pour interagir avec lui, et plus encore, même deux fois plus, 40 minutes si c'est possible. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est pas de supprimer les écrans, c'est d'augmenter la sociabilité que nous avons avec nos enfants, parce que c'est cette sociabilité qui leur permet de grandir.
Le ministre de l'Éducation luxembourgeois a annoncé de vouloir interdire le portable à l'école primaire. C'est un sujet d'actualité. Hein.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 12 ans, oui. C'est donc valable. Après, pour le lycée, il a été un peu moins clair. Il dit qu'il faut instaurer une distance entre le portable et l'élève. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis ?
Oui, alors ce sont deux très bonnes mesures. C'est vrai que certains parents sont rassurés que l'enfant parte à l'école avec un smartphone dans la poche s'il arrivait quelque chose. Mais le smartphone doit rester à la porte de l'école. Et il a même été montré que si votre smartphone est dans votre poche, ça reste une préoccupation pour vous. S'il est à 10 mètres, vous êtes un peu plus tranquille dans votre tête. Et si vous le mettez à 100 mètres, alors là, vous êtes totalement libéré de la préoccupation du smartphone. Donc, c'est bien que les smartphones ne soient pas arrêtés dans le cartable ou dans la poche. Il vaut mieux qu'ils restent à la porte de l'école. Et puis après, quand l'enfant grandit, c'est vrai que certains enseignants peuvent avoir envie que les enfants utilisent leur smartphone. Si on fait de l'éducation au numérique, c'est quand même bien qu'on utilise les enfants ont la possibilité d'utiliser leur smartphone pour apprendre à déjouer les pièges des plateformes, des jeux vidéo, etc.
Mais cette éducation au numérique, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle commence beaucoup plus tôt
si.
et que le personnel scolaire soit aussi formé ? Je ne sais pas si c'est le cas en France, par exemple, mais je pense au Luxembourg, ce n'est pas encore vraiment le cas.
Ce n'est pas encore non plus le cas en France. C'est très compliqué. Il faut s'appuyer sur des personnes ressources, les bibliothécaires, les psychologues scolaires, puis tous les gens intéressés. Si un enseignant est passionné de technologie, c'est bien aussi qui participe à cette éducation. Donc il faut libérer des heures aux enseignants qui auraient ce désir et cette compétence d'introduire les enfants au numérique en leur montrant qu'on peut trouver beaucoup de choses dans le numérique, mais on ne peut pas tout trouver dans le numérique. Et que surtout, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup plus de pièges aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans. Et avec l'intelligence artificielle, il y en aura encore bien plus demain. Et si on n'éduque pas les jeunes enfants aux pièges du numérique, ils seront des proies toutes désignées pour l'intelligence artificielle.
Mais comment expliquer que les enfants aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, sont plus fixés justement sur ce portable au lieu d'avoir des interactions avec leurs amis de manière physique, de les voir physiquement? Pourquoi ça a changé?
Alors, quand ils ont la possibilité d'avoir des rencontres physiques, souvent ils en profitent. Le problème, c'est que très vite, lorsqu'on utilise un portable, on crée ce qu'on appelle une habitude comportementale, c'est-à-dire on a l'habitude de le sortir de sa poche. Donc dès qu'on n'a rien à faire, hop, on le sort de sa poche. Mais lorsqu'on prévoit des activités avec des jeunes encadrés, des activités dans lesquelles ils se retrouvent en présence physique, si on laisse les portables un peu loin, très vite, ils s'immergent dans l'activité qu'on leur propose et ils oublient leur portable. Si par contre ils l'ont dans leur poche, ils n'arrêtent pas de le sortir. Si vous voulez, le problème c'est le geste de sortir son portable. C'est une habitude comportementale. Une habitude, c'est pas une addiction, mais c'est quand même compliqué de s'en séparer. Il faut que les jeunes soient aidés. C'est pour ça que laisser les portables à la porte de l'école, ça leur apprendra à faire autre chose pendant les cours de récréation.
Vous vous intéressez aussi beaucoup aux parents. Comment résister en tant que parent à une certaine pression sociale aussi quand vous dites le portable doit rester un peu à l'écart de l'enfant, vous dites même pas de portable avant 14 ans, mais après, bon, les enfants vont vous dire, oui, mais mon pote, il a déjà un portable, pourquoi pas moi, quoi répondre à des questions
oui.
comme
alors,
ça.
Moi, j'ai toujours dit, depuis 2008, pas d'Internet tout seul avant 12 ans, et donc ça veut dire pas de téléphone mobile avant 12 ans, parce que dès qu'un enfant a un téléphone mobile, il accède à Internet en tout lieu, en tout instant, sans que les parents puissent rien y voir. Alors effectivement, on peut dire 13 ans, n'oubliez pas d'ailleurs que Facebook au début, c'était réseau social réservé aux 13 ans. Voilà. Donc l'important, c'est pas tellement de dire 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. L'important, c'est que les parents prennent conscience du fait que un enfant qui a un portable, il est forcément exposé à des tas de choses qui vont échapper aux parents, que les parents ne pourront pas contrôler. Mais si un enfant n'a pas de portable, les parents peuvent pas mieux contrôler l'enfant. Quand l'enfant va chez des copains, les parents savent pas ce qu'il y fait. Hein. Peut-être qu'il y regarde, peut-être qu'il joue à des jeux 18+, alors qu'il a 10 ans. Peut-être qu'un copain traumatisé par des vidéos porno les montre à ses camarades parce qu'il est content de voir ses camarades paniquer comme lui. Ça le rassure. Il dit « je suis normal, j'ai eu peur, j'ai été angoissé, mes copains aussi ». Donc les parents n'ont pas le pouvoir de tout contrôler. C'est pour ça qu'il faut que les parents changent un petit peu, comme on dit aujourd'hui, de logiciel. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils accompagnent leurs enfants, qu'ils soient présents et qu'ils établissent des sortes de rituels, de moments pendant lesquels il y a, l'enfant est rassuré sur le fait qu'il peut échanger avec ses parents sur tout ce qu'il préoccupe, que ce soit des images qu'il a vues, harcèlement dont il est victime à l'école, des questions qu'il se pose sur la politique, qu'il y ait cette fenêtre d'opportunité pour toute la famille, pour parler ensemble, et ça encore une fois c'est le repas du soir. C'est bien que les parents guident, donnent des conseils, mais il faut que les parents renoncent à l'idée de contrôler. Je pense à ces parents qui géolocalisent leur enfant avec son smartphone, je pense à ces parents qui vont voir dans le dos de leur enfant tous les espaces qu'il a consultés sur l'ordinateur familial. Il faut pas fliquer nos enfants, parce que vous savez, si on veut fliquer nos enfants, à ce petit jeu, ils seront toujours gagnants. Il y a même des études qui ont montré que les enfants qui sont surveillés par leurs parents créent des profils de l'ombre et ils arrivent à tromper complètement leurs parents sur ce qu'ils font en réalité. Donc, ce qui est important, c'est d'établir de la confiance et puis après, eh bien, le choix du portable, bon, avant 12 ans, jamais. Attendre 13 ans, c'est mieux. Et les réseaux sociaux, 15 ans, c'est bien suffisant, voilà. Mais après, voyez, il faut pas en faire la règle principale. La règle principale, c'est d'accompagner nos enfants le mieux qu'on peut à tout âge.
Mais quand même, pour revenir à ma question, comment expliquer à un enfant, si je fais le choix de l'accompagner, mais aussi de lui dire, écoute, toi, le portable, c'est pas avant 12, 13, 14 ans, comment lui expliquer quand il vous répond que voilà, tous les autres enfants ont déjà un portable et sont déjà sur les réseaux sociaux depuis 5 ans? J'exagère, oui. Peut-être, hein, mais...
Oui, alors vous savez, on me pose toujours cette question dans les conférences. Je réponds toujours la chose suivante, c'est que un enfant trouve toujours des camarades qui partagent les mêmes centres d'intérêt que lui. Et si un enfant, d'autant plus que les échanges sur les portables se continuent dans les cours de récréation, alors il faut résister à cette pression sociale. Vous savez, dans une classe, si quelques enfants n'ont pas de portable, ils vont s'occuper autrement entre eux. Si vous voulez, comment dire? Il y a un dessin humoristique où on voit un chien qui revient du jardin public et il dit à son maître dans le jardin public, tous mes camarades chiens ont un portable. Voilà. Donc même si tous les enfants n'ont pas un portable dans la classe, votre enfant vous dira toujours que tous les enfants ont un portable dans leur classe. Alors comment faire? Il faut faire des réunions de parents. Il faut que les parents se réunissent beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui pour discuter entre eux, pour vérifier la validité de ce que disent leurs enfants. Peut-être les parents vont s'apercevoir s'ils se réunissent qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui n'ont pas de portable que ce que chaque parent le croyait. Et puis que les parents parlent de la manière dont ils résolvent les difficultés les uns les autres avec leurs enfants. Les parents sont les mieux placés pour éduquer leurs enfants. Ils ont besoin d'être conseillés et aidés par les pouvoirs publics. Mais aussi, c'est très utile pour les parents d'échanger avec d'autres parents pour savoir comment les autres parents gèrent des difficultés semblables dans toutes les familles.
Les écrans sont devenus des médiums indispensables de nos jours, hein, pour les adultes comme pour aussi les enfants, les adolescents. Plus ils avancent avec l'âge, plus ils en ont besoin aussi. À l'école, par exemple, vous menez un combat en quelque sorte depuis des années. Oui. Quand est-ce que ça va rentrer dans les mœurs? Est-ce que, par exemple, c'est ces interdictions qui sont prévues au Luxembourg comme en France où il y a des projets pilotes aussi vont finalement pouvoir faire arriver ça dans la routine de tous les jours.
Oui, alors vous avez raison de parler de routine. Ce qu'il faut, c'est casser nos habitudes. Ça, par exemple, pour les adultes aussi, ont besoin de changer leurs habitudes. Moi, je dis toujours, vous savez, les gens qui travaillent et qui se retrouvent au restaurant, je dis toujours, ben, vous mettez chacun votre téléphone en mode vibreur sur la table, les téléphones vont vibrer, forcément. Le premier qui prend la communication paye l'addition. On On a besoin de s'appuyer sur les autres pour changer nos habitudes. Il faut réinventer des rituels dans lesquels il y a des moments où il est admis qu'on consulte ses mails, ses SMS, etc. Plutôt à horaire fixe, hein, comme ça on sait que le reste du temps on est disponible. Et il faut créer des règles sociales. Alors je vous disais, pas de repas du soir avec des écrans, mais aussi pas de smartphone la nuit dans les chambres. Ça, c'est vraiment un deuxième conseil essentiel. Les parents utilisent leur smartphone pour se réveiller très bien. L'ado dit, ben moi aussi. Le problème, c'est que l'ado, s'il a son smartphone dans sa chambre, il risque de faire beaucoup d'autres choses avec que de se réveiller le lendemain matin. Donc, dans les familles, voilà, conseil que je donne à tous ceux celles qui nous écoutent, achetez un réveil à chaque personne de la famille et bannissez tous les smartphones de toutes les chambres, parce que les parents ne peuvent pas dire à leur enfant, tu mets pas ton smartphone dans ta chambre, si eux-mêmes emmènent leur propre smartphone dans leur chambre. Un réveil, c'est un prix modique, et la nuit, ben, tous les smartphones sont regroupés dans la cuisine ou dans le salon, où vous voulez. Mais c'est très important de créer ces règles familiales. Personne ne peut résoudre aujourd'hui tout seul les difficultés énormes que nous posent les outils numériques, parce que les fabricants d'outils numériques ont inventé des algorithmes extraordinaires pour faire en sorte qu'on y reste toujours plus longtemps, et tout seul, on n'a pas la force. Eux sont nombreux. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent pour nous scotcher au numérique. Il ne faut pas qu'on reste chacun tout seul. Il faut aussi qu'on parle, qu'on discute et qu'on s'organise entre nous.
Den franzéischen Psychiater Serge Tisserand war Eisen invité an de lachten Minuten. Un grand merci, Monsieur Tisserand, pour avoir visité notre studio.
Merci.